Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour pour l'interview du jour sur RTVoix, une émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Emmer. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane, tu es spéléologue, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et tu viens nous parler d'un événement qui va avoir lieu le 3 et 4 octobre avec la Journée nationale de spéléologie et Canyon. Ça se passera où ce week-end-là pour toi ?
Alors, il faut savoir que cet événement est organisé donc par la Fédération française de spéléo. Donc, il y a beaucoup de clubs en France qui organisent un événement pour l'occasion. Et donc, dans la Drôme, en fait, il y a une petite dizaine de clubs qui se sont regroupés pour organiser un événement donc dans les gorges de la Bourne, en dessous de Villard-de-Lans, au-dessus de Pont-en-Royan, à la grotte de Bournillon, donc qui est le plus grand porche d'Europe. Pour la petite histoire.
Alors, c'est deux journées qui se passeront essentiellement sous terre ?
Alors, c'est deux journées où ils se passent sous terre, avec différents parcours en fonction des envies, du niveau de chacun. Donc, il y a un petit parcours où il y a un petit peu de ramping, voilà, où on voit des concrétions, des stalactites, des stalagmites. Parcours un petit peu sportif, plutôt dirigé vers les jeunes. Et puis un parcours plus où on progresse au milieu d'un chaos de blocs, voilà, dans une très grande galerie. Et là où on va crapahuter pour aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière et peut-être aller jusqu'à au départ de la rivière souterraine.
Alors là, c'est le mystère pour toi ? Tu n'es jamais allé dans cette grotte ou...
Alors moi, c'est une grotte que je connais très bien parce que j'y emmène régulièrement des groupes. C'est une grotte qui garde encore quelques mystères parce que comme beaucoup de cavités sur le Vercors, elles n'ont pas toutes été explorées. Il reste encore beaucoup de choses à faire.
Peut-être un trésor encore enfoui quelque part ?
Oh, un trésor, après ça dépend de ce qu'on appelle un trésor, mais découvrir des nouvelles galeries, découvrir des cristaux, poser le pied là où l'homme ne l'a jamais posé, ça a toujours quelque chose de magique. C'est une aventure humaine qui est assez magique, un peu inexplicable.
Et cette passion pour la spéléologie, t'es arrivé à quel âge ?
Alors moi, ça m'est arrivé vers l'âge de 8-10 ans à peu près. En centre de vacances, et du coup, c'était un peu une évidence pour moi. Je m'intéressais déjà beaucoup à tout ce qui était souterrain. Je m'intéressais aussi beaucoup à l'astronomie. Et puis, la spéléologie, finalement, c'était un peu une évidence pour moi parce que c'était beaucoup plus facile d'accès que d'aller dans l'espace.
Alors, comment est l'univers sous terre, dans une grotte ? Quel son perçoit-on ?
Alors, c'est très, très varié. En fait, il faut imaginer que les grottes... On a souvent l'image de quelque chose d'étroit, boueux, humide. Alors effectivement, il existe bien des cavités comme ça. Mais faut imaginer aussi que derrière tout ça, souvent, y a des grandes salles, des galeries énormes. Et puis des endroits assez merveilleux, qui n'ont jamais bougé depuis des millions d'années, plein de cristaux. Des endroits très très variés, des salles, des galeries, des puits. C'est un peu un labyrinthe.
Donc ces deux journées vont se dérouler, tu parlais tout à l'heure au niveau de la grotte de Bournillon.
Oui.
Donc vous allez recevoir combien de personnes pour ces deux journées ?
Alors c'est variable, l'année dernière par exemple on était à la grotte de la Luire, on a reçu à peu près 80 personnes sur les deux jours. Mais c'est arrivé que d'autres années où on était plus proche de la vallée du Rhône, donc à la grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royan, on est arrivé jusqu'à 200-250 personnes. C'est assez variable et cette année, on a prévu donc une inscription parce que malheureusement, l'année dernière, on a dû refuser des gens parce que tout le monde s'est pointé le dimanche après-midi et on n'avait plus assez de matériel, on n'était plus assez d'encadrants. Donc on s'est dit, pour ne pas retomber dans ce problème, c'est pour ça qu'on sollicite les gens pour s'inscrire.
Vous parlez de matériel, vous en avez à disposition pour une quantité limitée de personnes, donc je suppose qu'il faudrait contacter pour réserver ou...
Voilà, du coup on fournit des combinaisons, un casque avec un éclairage, mais faut savoir que sous terre il fait quand même pas très chaud, il fait entre 5 et 10 degrés. Donc c'est bien d'être un minimum équipé avec genre une petite polaire ou un petit jogging qu'on va mettre du coup sous la combinaison. Si vous avez une paire de bottes, eh ben, prenez-la, voilà, ou des vieilles chaussures de randonnée. Parce que là, on ne pourra pas fournir tout le monde. On en a quelques-unes au cas où, mais on ne pourra pas équiper tout le monde. Et puis, bah, sinon, après, il n'y a pas grand-chose de plus, quoi. C'est être équipé un peu comme si vous alliez faire du ski de fond, genre avec un truc un peu moulant, voilà, pour que ça puisse rentrer facilement sous la combinaison.
Comment ça va se dérouler ces deux journées ? Donc, il y a l'accueil, il y aura certainement peut-être un petit cours.
Après, ça dépend un petit peu de chaque encadrant. On a un peu chacun nos spécificités, notre manière d'aborder l'activité. Mais il y a des différents parcours qui font entre 1 heure et 2 heures. Et puis, il y a aussi un atelier sur corde. Voilà, pour aussi combler un peu les temps morts, parce que des fois, il pourra y avoir peut-être un groupe qui va arriver plus vite que prévu, pour éviter que tout le monde parte en même temps. Et puis aussi, bah, le temps de s'équiper, ça prend quand même un petit moment. Donc voilà, on a un petit parcours sur corde pour ceux qui veulent. L'idée, c'est de découvrir un peu une autre facette de l'activité, qui est le passage d'obstacles, donc avec baudrier, des longes et une descente en rappel.
Alors, tu disais tout à l'heure, hors micro, que tu avais une activité, la salariée, avec cette passion, parce que c'est une passion pour toi, je suppose. Et tu arrives à lier donc la technique, le scientifique et les événements sportifs en même temps avec cette activité, donc.
Alors moi, je suis déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas salarié, je suis travailleur indépendant. Je travaille beaucoup avec les écoles au printemps, je travaille avec les centres de vacances l'été, et puis le reste de l'année, je travaille, ça peut arriver des fois que je travaille avec le lycée de Die, avec la section sport nature. Puis sinon, je m'occupe de l'école départementale de Spéléo. Cette école départementale, ça regroupe en fait tous les jeunes, plutôt les ados, on va dire que c'est à partir de 10 ans, qui ont envie de s'intégrer dans les clubs de Spéléo. Donc cette école départementale, en fait, est mise en place par le comité départemental, et on regroupe tous ces jeunes, et moi je propose un programme où ils vont faire une sortie à peu près tous les 15 jours. L'idée, c'est qu'ils puissent être autonomes en progression sur corde, et puis qu'ils puissent plus facilement intégrer les clubs de spéléo. Alors ces jeunes, ils vont apprendre donc à installer déjà à progresser sur corde, à installer aussi les cordes sous terre. Et puis, on va faire aussi un peu de topographie. L'année dernière, on a participé, par exemple, à un traçage hydrologique en lien avec les scientifiques. On fait des camps d'exploration. Et puis, bah, surtout, on se fait plaisir. On prend du bon temps ensemble.
Ça reste, malgré tout, pour l'accueil d'un public, un parcours balisé déjà, non, je suppose ?
Pas du tout.
Non, vous allez vraiment découvrir des endroits nouveaux.
L'idée, c'est que ces jeunes puissent être autonomes sur corde et qu'après, du coup, ils puissent intégrer facilement les clubs de spéléo. Et d'ailleurs, il y en a qui font partie de cette école départementale, qui viennent régulièrement en exploration avec les différents clubs. Et c'est eux qui même prennent un peu la main. Et l'idée, c'est que souvent, ils sont à la suite de ça, ils ont envie de s'investir. Donc, ils passent le stage d'initiateur, voire même il y en a qui, quelques années plus tard, vont sur des cursus professionnels. Voilà, mais en tout cas, c'est la plupart, quand ils mordent à l'activité, en fait, ils restent bien mordus, quoi. Ils font aussi de la plongée aussi.
Ah, il y a de la plongée aussi dans des rivières souterraines, c'est ça ?
Ouais, alors ça, c'est une activité, on va dire, qui se développe de plus en plus, parce que sous terre, en fait, il peut y avoir des obstacles. Ça peut être un puits, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un siphon. Donc un siphon, c'est tout simplement la même chose que ce que vous avez en dessous de votre lavabo. Donc on plonge avec des bouteilles, avec tout le matériel nécessaire, et on a une personne au niveau du comité départemental qui s'occupe donc d'une commission plongée qui, de plus en plus, en fait, emmène les jeunes découvrir cette activité.
Qu'est-ce que vous avez pu, dans ton parcours, est-ce que tu as fait des découvertes, disons, sublimes ?
J'ai découvert des belles choses, ouais. Après, des trucs exceptionnels, je sais pas. Mais...
Est-ce que c'est ce qui motive aussi de découvrir ?
Oui, il y a quelque chose, je pense qu'on a tous un peu ça au fond de nous. Un scientifique dans son laboratoire, il va chercher à savoir plus. Un astronome dans l'espace, il va chercher à aller plus loin. Et nous, en spéléologie, en fait, c'est... même si des fois, on se demande un petit peu ce qu'on fait ici, voilà, parce qu'on est dans un univers qui est quand même très hostile, froid, humide, il y a toujours ce truc au fin fond de nous qui nous dit on a envie d'aller plus loin, quoi. Et puis le fait que ça soit en groupe, donc en coopération avec les copains, ça a quelque chose d'assez, d'assez sympa.
Au niveau du Diois, parce que là vous parliez, enfin tu parlais du Vercors, hein, au nord du Vercors je suppose, ouais. Et dans le Diois tu as exploré un peu des Alors, cavernes ou des grottes?
Il y a quelques grottes dans le Diois qui sont intéressantes. Par contre, en fait, tout dépend de la géologie, en fait, du milieu. Et le Diois, en fait, c'était géologiquement, c'est un endroit où il y a eu des dépôts sédimentaires, des dépôts calcaires de moins bonne qualité que ce qu'il va y avoir sur le Vercors. Et en fait, c'est tout simplement, on va dire, la pureté du calcaire qui fait qu'il peut y avoir des réseaux très intéressants et surtout pénétrables par l'homme. Il y a bien quelques cavités dans le Diois, mais on va dire que c'est plutôt du ramping, des trous assez étroits et très boueux. Donc, ce n'est pas l'endroit idéal pour faire de la spéléo. Il y a quelques cavités, mais on va dire que le Vercors, ça n'a rien à voir. C'est plutôt là où que ça se passe.
Est-ce qu'il y a toujours, aujourd'hui, je ne sais pas si au niveau de la communication, de la télécommunication, vous pouvez parler avec l'extérieur
en... Il existe un moyen en fait, qui a été développé, donc, notamment au niveau des secours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération française de spéléo est la seule fédération qui gère ses propres secours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est licencié, eh bien, on peut participer régulièrement à des exercices secours. On s'entraîne, on va dire 2-3 fois par an. Et l'idée, c'est que quand il y a quelqu'un qui est coincé sous terre ou il y a un accident, eh bien, c'est nous qui prenons en charge le secours en collaboration en fait, avec les pompiers, le peloton de gendarmerie de haute montagne, les CRS aussi, et en fait c'est nous qui sommes, en tout cas sur le département de la Drôme, c'est le conseil technique est un spéléo, et que du coup va recruter différentes personnes, mais on est beaucoup à en faire partie, pour aller chercher une personne éventuellement qui est accidentée.
Et ça peut arriver assez souvent
Alors ça arrive très rarement quand même, ça reste assez exceptionnel par rapport à la quantité de l'activité. Si on compare par d'autres activités de montagne, en fait... Le milieu souterrain, il est très mal connu et du coup, on pense souvent on va rester coincé, on va avoir une crue, on peut se faire mal. Effectivement, se faire une entorse sous terre, ça a des conséquences qui sont beaucoup plus compliquées que si on se fait une entorse en sortant de chez soi. Mais par contre, on va dire qu'il y a très très peu d'accidents parce que déjà, on est beaucoup dans la vigilance, on est en train de s'auto-surveiller les uns les autres. Et puis, on est quand même assez averti au niveau technique. Et du coup, il y a très, très peu d'accidents. On parle peu, malheureusement, dans les médias de ce qu'on fait au niveau exploration. Mais pour vous donner une idée, il y a entre 60 et 80 km de galeries qui sont découvertes tous les ans en France. Et les accidents, c'est dû peut-être 1 sur 1000. Par contre, dès qu'il va y avoir un accident... ça va prendre des proportions beaucoup plus grandes parce que aller chercher quelqu'un qui a des kilomètres sous terre, il va falloir des fois agrandir les passages pour faire passer une personne en civière, etc. etc.
Jusqu'à quelle profondeur es-tu descendu toi-même?
Alors moi, je suis descendu, c'était il y a quelques années, je suis descendu à presque 1200 mètres. Voilà, mais ce n'est pas forcément représentatif la profondeur. Il peut y avoir des cavités qui font 400, 500 mètres de profondeur et qui sont beaucoup plus dures que des cavités qui font plus de 1000 mètres de profondeur. Chaque cavité, en fait, est spécifique et du coup, avec des petits passages, des fois, pour descendre jusqu'à 1000 mètres, il va falloir monter, redescendre et il va falloir beaucoup d'heures. Mais ce n'est pas forcément représentatif, la profondeur.
Et il y a une sensation étrange quand on est en sous-sol, aussi profondément, par rapport à l'oreille, par exemple.
Alors, sous terre, on entend aussi bien qu'à l'extérieur. On respire aussi bien aussi.
Je veux dire, il n'y a pas une espèce de sentiment, une espèce d'oppression de savoir qu'on se retrouve avec des centaines de mètres de roches au-dessus
de la tête. Ah si, ça, des fois, on se sent un peu loin de la maison, en fait. On se dit, je suis un peu loin. Et puis, on imagine un peu tout ce qu'on a à faire pour pouvoir ressortir de la cavité. Mais c'est plus psychologique, en fait. Mais c'est vrai que dans des moments comme ça, on se dit, là, j'ai pas le droit de me faire mal, quoi. Ça peut vite prendre des grandes proportions. Et c'est un petit peu oppressant, mais en même temps, le fait qu'on soit avec les copains, et finalement, ça prend une autre dimension. Et on l'oublie vite qu'on a des centaines de calcaire au-dessus de la tête.
De toute manière, ça, c'est une activité qui ne se fait qu'à plusieurs.
Alors, ça se fait qu'à plusieurs. Après, moi, je vous dirais que ça m'arrive de temps en temps d'aller tout seul sous terre parce que faut bien que j'aille repérer des fois des cavités où je vais emmener des groupes après. Il faut bien que je fasse un minimum de repérage. Par contre, je dirais que si on pratique cette activité tout seul, faut toujours dire où c'est qu'on va, donner une idée de l'heure à laquelle on va sortir. Il faut mieux éviter de la pratiquer tout seul. Par contre, quand on n'a vraiment pas le choix, des fois, d'aller dans une petite grotte, c'est pas plus dangereux que d'aller se balader en montagne sur les hauts plateaux du Vercors, par exemple.
Je rappelle quand même le nom de ton association.
Je m'occupe du club de spéléo des taupes du Glandas, donc il y a un petit club de spéléo dans le Diwa, qui est, on va dire, comme plus un groupe de copains. Et c'est un club qui est affilié à la Fédération française de spéléo. Donc, en fait, on fait surtout de l'exploration. On fait beaucoup des sorties en interclub avec les différents clubs de la Drôme. Et puis, on organise quand même quelques sorties par an, mais on va dire que ce n'est pas vraiment officiel, les sorties. Il ne faut pas imaginer avoir une sortie tous les week-ends. En plus, on fait des sorties en interclub et puis on a, deux sorties d'initiation tout public par an. Donc, on en propose une en général début juin. Et puis là, il y a aussi celle début octobre, donc les journées nationales de la spéléo.
C'était une activité qui est aussi certainement très tributaire de la météo.
Alors, c'est très tributaire de la météo, effectivement. Ceci dit, quand il ne fait pas beau, il y a toujours des grottes où il n'y a pas eu de rivière souterraine depuis des milliers d'années. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus aujourd'hui. Disons que ça a changé un petit peu. La morphologie, au fait, de la cavité a complètement changé. Donc... on va pas avoir de crue, même s'il pleut très fort. Voilà. Par contre, effectivement, dès qu'on va dans des réseaux actifs, des rivières souterraines, là, il vaut mieux avoir une bonne météorologie.
Et je vois aussi sur votre brochure que vous pratiquez le canyoning, c'est ça ?
Alors, le canyoning, on le fait plus anecdotiquement, mais ça arrive que de temps en temps, on se fasse une petite sortie, entre nous, histoire de diversifier. Et puis c'est aussi l'occasion de laver le matériel, parce que souvent quand on sort de sous terre, on a tout le lavage du matériel à faire, les comptes rendus, après faire rentrer la topographie donc dans l'ordinateur pour voir où c'est que va le réseau qu'on a découvert. Et en fait, finalement, sous terre, on va dire que c'est à peu près la moitié du temps de l'activité.
Comment vous faites pour répertorier une grotte, la dessiner, la reporter sur papier ou en deux dimensions?
On peut même l'avoir en trois dimensions aujourd'hui. Il existe plusieurs moyens. En fait, les spéléos de tout temps ont toujours été des bricoleurs et on a de la chance d'avoir des informaticiens dans nos clubs, des gens qui bricolent des éclairages, du matériel, un petit peu de tout. Quand on trouve une nouvelle cavité, en fait, on va pointer l'entrée de la cavité avec un GPS. Voilà, et à partir de là, en fait, on va mesurer. On utilise maintenant aujourd'hui des lasermètres et on va mesurer à chaque fois. On va aller de point en point, mesurant la longueur, l'orientation et la pente. Et après, prendre des hauteurs, des largeurs, et puis avoir toujours, on a un petit carnet où on fait un peu un dessin. L'idée, c'est qu'on essaye de représenter le plus justement possible, en fait, à quoi ressemble la cavité. Et aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait des copains là, qui aient développé des logiciels où on arrive à la maison, on rentre tout dans la bécane, et puis en fait, après, on peut le voir en plan, en coupe, en trois dimensions, et même on peut le reporter sur la carte IGN et savoir où on est sur le massif, quoi.
Et vous travaillez avec l'IGN, je suppose ?
Alors, on ne travaille pas avec l'IGN. En fait, on utilise beaucoup de leurs cartes. Mais par contre, on va travailler plutôt avec des fois, ça peut arriver, on est en collaboration avec les hydrogéologues. Parce que quand on découvre un grand réseau où il y a une rivière souterraine qui va alimenter un captage pour l'eau potable, notamment, très souvent, ça les intéresse quand on fait une coloration donc à la fluorescine. De savoir en combien de temps, parce qu'au fait, à partir de ça, on va pouvoir à peu près savoir combien de réserves d'eau il va y avoir derrière.
Et la fluorocéine, elle reste en suspension combien de temps dans
Alors,
l'eau
c'est, dans les réseaux spéléo, il faut imaginer qu'il y a peu d'eau qui stagne, en fait. L'eau est courante, comme une rivière. Et du coup, on va dire, pour vous donner une idée, par exemple, si demain on fait une injection sur le massif du Glandas, il y a des chances que toute l'eau soit sortie dans les 15 jours qui suivent.
Ah, c'est assez rapide.
Il restera toujours quelques petites traces. Voilà, mais c'est tellement dilué que ça ne va pas être détectable, en tout cas par les appareils.
Stéphane, je vais te demander, par contre, est-ce que vous avez un numéro de téléphone là, pour prendre contact avec vous s'il y a une possibilité de réserver pour ce 3 et 4 octobre ?
Alors, par rapport au 3 et 4 octobre, en fait, moi, je peux donner mon numéro de téléphone. Mais... Et le mieux, c'est d'aller sur le site de la Fédération française de spéléo. vous cliquez sur le nom du site. Après, vous allez voir JNSC, donc Journée Nationale de la Spéléo et du Canyon, 3 et 4 octobre. Vous cliquez dessus. Après, vous trouvez le programme. Et là, par contre, pour avoir l'événement donc, qui est organisé par le comité départemental de la Drôme, vous allez sur la grotte de Bourgnillon. Vous allez voir les différents événements. Donc ceux qui sont dans la case Rhône-Alpes, vous allez voir Grotte de Bourgnillon, c'est la commune de Châtelus. Et donc c'est en Isère. Il faut faire attention parce que la grotte est répertoriée en Isère, elle est juste à la limite. Et donc même si c'est organisé par la Drôme, c'est en Isère. Et puis je vais donner mon numéro de téléphone quand même pour si vous voulez plus de renseignements. Voilà, donc mon numéro c'est le 06 45 51 45 06. Il ne faut pas hésiter à laisser un petit message parce que là où j'habite, ça passe pas très bien.
Tu n'habites pas dans une grotte quand même?
Non, j'habite à Marignac, donc c'est pas très loin, mais le téléphone est assez aléatoire.
Eh bien Stéphane, merci d'être venu et puis bon week-end alors à venir.
Ben merci à toi Yves, bonne journée.
Merci, au revoir. Au revoir.
Interview. 1 Terre.
Hey, the bird.